bienvenue à la table ronde qui s'appelle, je ne sais plus le nom exact, mais c'est une table ronde.
Les multiples personnalités d'Alter Ego.
Voilà, les multiples. Il y en a qui travaillent. Les multiples personnalités d'Alter Ego, c'est un très beau titre à la série. Une série de bandes dessinées, moi je ne vais pas expliquer, ça va être vous qui allez expliquer. Donc à ma gauche, Pierre-Paul Renders, qui est un des deux co-scénaristes.
Bonsoir.
À sa gauche, Effa.
Voilà. Bonsoir.
Rika, mais qui s'y trouve. Effa. Et encore à sa gauche, Benjamin Benetto.
Bonsoir.
Alors ils vont vous expliquer, tous les deux sont dessinateurs, mais je suis différent, ils vont chacun expliquer. On va peut-être commencer par, vous allez vous présenter peut-être chacun. Votre background et votre rôle au sein de la série, puis après on va rentrer dans les détails. On va commencer par
Pierre. Moi je suis le concepteur de la série, c'est moi qui ai imaginé l'idée au départ. Et je suis co-scénariste avec Denis Lapierre, qui est un scénariste qui a un autre renom que le mien, qui a fait quand même beaucoup de choses. On va dire mon background, c'est qu'initialement je suis réalisateur de cinéma. J'ai fait une formation dans ce sens-là aussi. J'ai une formation littéraire aussi. Et voilà, je me suis diversifié entre le cinéma et la bande dessinée. Et donc j'ai imaginé cette histoire. Au départ, c'est né comme un scénario pour une série télé ou quelque chose comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte que la série télé, elle serait super chère à produire et que peut-être il valait mieux d'abord écrire l'histoire pour de la bande dessinée, comme j'avais des connexions avec la bande dessinée. Voilà, ça a été le point de départ.
Oui, moi je suis dessinateur, créateur des personnages dans la série aussi. Je fais des storyboards, c'est-à-dire je passe le scénario que monsieur et Denis Lapierre écrivent. Et je travaille normalement avec un dessinateur qui s'occupe des décors, comme lui par exemple, ou Lucas Hermeta qui n'est pas là. Et il manque aussi un dessinateur de personnages qui c'est Mathieu Reynès, qui s'est occupé de créer l'univers graphique, de donner une identité visuelle à la série.
On reviendra sur le fonctionnement de l'équipe.
Moi je suis dessinateur de décor sur cette série. Par la force des choses, je me suis spécialisé dans le décor et j'ai travaillé sur 5 albums sur les 7 qui sont sortis. Donc, tout d'abord avec Mathieu Reynès. Pas tout à l'heure la spécificité du travail à deux.
Voilà, en fait, l'idée d'Alter Ego, c'était de raconter une histoire qui allait démarrer sur 6 albums qui sont à lecture aléatoire, c'est-à-dire qu'on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas d'ordre précis, ils ne sont pas numérotés, parce que c'est une sorte de puzzle narratif. Et j'expliquerai un peu plus après dans quoi ça consiste. Mais techniquement, pour arriver à le faire dans un délai raisonnable, on voulait que les lecteurs aient très vite 6 albums disponibles. Donc on a mis en place un studio pour réussir à créer cette série en un minimum de temps. Ça nous a quand même pris plus de 3 ans pour dessiner les 6 albums, enfin les concevoir et les dessiner. 6 albums de 60 planches. Et pour cela, on a constitué des tandems. C'est-à-dire que, comme Ricard et Benjamin viennent de l'expliquer, sur chaque album, il y a deux dessinateurs, un qui s'occupe des personnages et l'autre qui fait les décors. Un peu comme au bon vieux temps des studios Hergé, etc. Où il y avait, mais là, ils travaillaient dans la même pièce et il y avait des grands noms futurs qui faisaient les décors de Hergé. Mais eux n'étaient pas crédités sur les albums. Aujourd'hui, on est fiers de créditer des décoristes de talent comme Benjamin et comme Luca Hermeta qui est celui qui travaille avec Ricard. Ricard travaillant pour les personnages, de même que Mathieu Reynès et Émile Zouga qui sont 3 dessinateurs de personnages sur cette série. Au final, on fait une équipe de 7 personnes, 2 scénaristes, 5 dessinateurs, avec en plus un coloriste et son assistant. Donc voilà, c'est une espèce de studio virtuel qu'on a créé pour ça. Et c'était un des objets d'éventuellement cette table ronde, d'expliquer un peu plus comment on avait pu créer un studio virtuel, dans le sens où les auteurs sont particulièrement, par la force du hasard, répartis géographiquement de façon très distante. On est répartis entre la Belgique, d'où le projet est parti, entre moi et Denis Lapierre qui sommes chacun à un bout de la Belgique. Mathieu Reynès, qui est le concepteur graphique initial de la série, se trouve à l'autre bout de la France, près de Biarritz, pas tellement loin de chez Ricard qui habite à Barcelone, mais beaucoup plus loin de chez Benjamin qui, malgré qu'il soit vendéen, habite à Bruxelles, près de chez nous. Émile Zouga était à Paris et Luca Herbetta habite à Ventimiglia et à la frontière italienne. Donc on était vraiment plus explosé que ça, c'était pas possible. On a fait que travailler à distance. Heureusement qu'il y a des festivals qui nous invitent pour qu'on se voit de temps en temps en vrai, que je sais que Ricard existe vraiment et pas seulement quelqu'un qui nous envoie des jolies choses sur nos emails et avec qui on discute de façon très agréable à distance par Skype ou par échange de mails. Donc c'est un studio qui n'aurait pas pu fonctionner autrement, pour pas pu fonctionner comme ça s'il n'y avait pas les moyens technologiques.
Moi j'aimerais tout savoir, on va revenir à la conception, pourquoi avoir, j'imagine t'as proposé à Denis Lapierre, comment ça s'est passé, avec, pourquoi un autre scénariste et comment vous allez démarcher les éditeurs après, ça m'intéresse aussi.
Alors au départ, il y a une idée qui est née dans mon cerveau, qui est celle qui est à la base de la série, et très vite elle est née comme un projet très ample. Je voyais tout de suite un énorme complot, plein de personnages, et je me suis dit, comme je le disais tout à l'heure, ça pourrait faire une super série télé américaine, mais comme elle se passe autour de la planète, ça demanderait un énorme budget, et moi, petit belge, comment je pourrais avoir accès à HBO ou quoi. Donc je m'apprêtais à remettre l'idée dans un tiroir, et puis je me suis dit, pourquoi pas collaborer en bande dessinée, exploiter cette idée en bande dessinée. Voilà, on nous apporte les albums, parce que la série est quand même toute fraîche, elle est sortie l'année passée, donc elle commence à faire son trou, mais elle n'est pas encore extrêmement connue, on est content du démarrage, mais voilà, on s'est dit que c'était bien de vous montrer à quoi elle ressemblait aussi, si jamais vous ne la connaissez pas encore. Alors, je suis venu vers Denis Lapierre parce que je le connaissais bien, on avait déjà fait un projet ensemble, et moi personnellement, je ne suis pas scénariste de bande dessinée depuis longtemps, et avoir la chance de collaborer avec lui, qui est vraiment un super bon raconteur en bande dessinée, il maîtrise le langage de façon incroyable, c'était vraiment mettre un atout énorme dans cette série, et en même temps, lui a énormément de connexions dans le monde de la BD que moi je n'avais pas encore, et c'est grâce à lui en fait que le projet s'est monté très rapidement, on l'a présenté à Dupuis, qui était l'éditeur qui avait déjà édité notre projet précédent, et chez qui Denis est vraiment très bien installé, pour ne pas dire un des piliers des éditions du Puy. Ils ont été intéressés. Il a fallu quand même les convaincre parce qu'il s'agissait de signer pour 6 albums d'un coup, ce qui n'est pas vraiment évident pour un éditeur. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai planché sur le scénario complexe de ces 6 albums pour faire comprendre quel serait le puzzle narratif et comment ça fonctionnerait. Une fois que j'ai fait ce scénar, je l'ai proposé aux éditeurs. Je l'ai conçu avec l'aide de Denis, mais c'est essentiellement moi qui ai conduit toute la trame globale. Et Denis l'a proposé aux éditions Dupuis, qui ont dit « Ok, trouvons un ou plusieurs dessinateurs et partons sur l'aventure ». Après, c'est grâce à Denis qu'on a trouvé le premier dessinateur, qui est Mathieu Reynès, qui n'est pas avec nous ce soir, et qu'on a choisi comme concepteur graphique de la série, c'est-à-dire que c'est lui qui a déterminé avec nous le style graphique. On voulait un style particulier, on peut en parler un peu plus tard. Il nous a fait des propositions qui nous ont plu, et puis on a cherché d'une part un collaborateur pour lui, et on a trouvé Benjamin assez vite, il racontera peut-être comment on l'a trouvé, et puis on a essayé de trouver d'autres équipes, un deuxième tandem qui est né avec Ricard et Luca. On a vu pas mal de dessinateurs. Ricard nous a accroché parce que son style, sans être exactement le même que celui de Mathieu, est vraiment dans la même lignée, et ils pouvaient vraiment avoir entre eux une continuité pour que les lecteurs ne soient pas perdus en passant d'un album à l'autre. Et puis on a complété l'équipe avec un sixième dessinateur, enfin un cinquième dessinateur pour le sixième album, qui est Émile Zouga, qui était un débutant aussi, mais dont le trait nous plaisait bien. Voilà un peu comment c'est né.
J'ai j'imagine que tu as une future BD déjà avec un bac. Mais je voudrais que tu me confirmes en fait. Parce que tu dis, ouais, j'avais besoin d'aller de Nîmes pour la BD, mais. Est-ce que tu as quand même une vraie culture BD?
Étant belge, on a effectivement une bonne culture BD, on est un peu tombé dans la marmite comme Obélix. Personnellement, moi j'ai toujours bien lu la BD. J'avais en fait une activité annexe à mes activités de cinéma qui était d'être critique BD aussi pour un journal, le journal du médecin en fait. Et je faisais une douzaine d'articles de fond par an sur des BD. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Denis en faisant une interview de lui. Et puis lui avait envie d'aller vers le cinéma, moi j'avais envie de. Enfin, il y a une connexion qui s'est passée entre nous, on a une amitié qui est née et une envie de travailler ensemble. Et effectivement, on a travaillé sur un scénario de film et de BD à la fois, qui est devenu un film que j'ai réalisé, une BD qu'on a fait à nous deux, qui s'appelait Comme tout le monde. Et puis après, ça a engendré d'autres collaborations et d'autres envies.
Je viens à vous après, comme on est au niveau de la création, là, vraiment. T'expliquais en gros que tu as écrit une Bible, c'est ça, et que tu l'avais développé après, tous les deux, j'imagine, narrativement, tout ça. Concrètement, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait des fiches de perso, comment tu as travaillé vraiment les aspects, par quel bout tu as pris le truc du coup. Parce que nous, on n'a pas d'ordre, mais toi, par où tu l'as pris en fait? Tu as commencé par le complot, les personnages?
C'est vrai que ce qui est particulier, c'est que quand une idée naît dans la tête, elle n'a pas de logique en fait, elle vient. Il y a l'idée qui est au cœur de la série, cette espèce de connexion entre les gens, mais j'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas lu la série. Tout d'un coup, ça donne lieu à plein d'images différentes et on se dit, ouais, on pourrait faire un complot avec ceci et tout ça. Il y a plein de scénarios qui naissent en même temps. Et puis on essaye de rationaliser ça, on essaye de se dire quels vont être les personnages qui vont être intéressants dans le complot et le autour de cette découverte scientifique, etc. Et donc, assez vite, l'idée est née, mais elle n'était pas initiale, l'idée est née de, plutôt que de suivre des personnages en parallèle, comme dans une série télé où on saute de l'un à l'autre, de se dire, pourquoi on ne splitterait pas un personnage par album et les suivre chacun dans une ligne narrative différente, parallèle dans le temps. Chacun vit son histoire, mais ça forme une sorte de puzzle où on découvre à chaque album un aspect du complot. Certains sont victimes du complot, d'autres font partie prenante du complot sans le savoir, d'autres sont plus impliqués dans la prise de décision. Et chaque personnage va faire un parcours qui fait que sa vie change complètement dans l'album. Et en même temps, c'est la convergence de tous ces destins-là qui crée un nœud de suspense qui va se résoudre dans un septième album qui boucle la série. Donc, ce puzzle-là, il a été écrit, effectivement, chaque histoire a été comme un embryon qui s'est développé en parallèle avec les autres, un petit synopsis de chacune des histoires, et puis chaque fois, devenu plus grand, écrire 10, 15, 20 pages de chacune des histoires, mais chacune s'interpénétrant, il fallait tout le temps les écrire en même temps, en fait. Et c'est vrai que par rapport aux habitudes de la bande dessinée, c'est un projet qui était très défini avant de se lancer dans la rédaction, même si après, quand on a réellement, Denis et moi, écrit le scénario, on a trouvé encore des nouvelles idées, des nouvelles interactions entre les albums, et c'était vraiment très agréable de faire les albums à la fois avec des équipes différentes, parce que ça nous permettait de dire, tiens, mais cette idée-là, du coup, on va la prendre, et en voyant les dessins, on avait des nouvelles idées pour l'autre scénario. Et donc c'était un processus continu comme ça, de développement de toutes les histoires à la fois. Un sacré casse-tête, je ne le casse pas. J'ai fait des fiches de personnages, une bible. J'ai surtout fait une espèce d'énorme timeline sur un tableur Excel comme ça, où on voyait les sites, la chronologie, parce qu'on a essayé d'éviter qu'il y ait des incohérences temporelles, qu'un personnage ne se trouve pas à des endroits où il ne doit pas se trouver. Donc de vraiment voir comment il fallait goupiller tout ça pour que ce puzzle narratif, il n'y ait pas d'erreur dedans, il n'y ait pas un lecteur qui nous dise ouais, mais là c'est pas logique, le personnage ne peut pas. C'est pas encore arrivé, il n'y a encore personne qui nous a dit ça. C'est plutôt l'inverse, les lecteurs n'ont pas encore découvert toutes les petites subtilités qui se cachent à l'arrière des cases, où parfois on a mis un personnage qui est tout à fait secondaire dans cette histoire-là, mais et ils n'ont pas remarqué qu'on a mis des petits détails, des petites choses pour nous faire plaisir.
On va passer au dessinateur maintenant. Comment ça se passe concrètement? C'est les éditeurs qui sont venus vous chercher. Est-ce que vous pouvez... Tout à l'heure, Benjamin, tu as dit je suis devenu dessinateur de décor par la force des choses. Est-ce que tu peux aussi nous...
Alors, oui, à la base, je suis pas seul parce que j'ai fait l'école civique. Donc, c'est assez connu, une sorte
de. Beaucoup de bras.
Voilà, et en sortant de là, j'avais un projet de bande dessinée personnel depuis, avec un ami scénariste, mais qui avait du mal à voir le jour, et en fait, je faisais tout le dessin, et en fait, j'ai présenté mon book autour de moi pour que les gens nous aient tout, et en particulier à la fête de la BD d'Andenne, où Tony Larivière, l'organisateur, avait vu ce que je faisais, et puis je crois qu'il l'avait gardé dans un coin de sa tête, parce qu'ensuite, Mathieu Rennes, quand il a commencé à être sur le projet Alter Ego, quand il a voulu chercher un dessinateur de décor, il s'est dit bah, je vais demander à des gens qui connaissent pas beaucoup d'auteurs, donc il a demandé à Tony Larivière, donc l'organisateur, qui a pensé à moi. Et donc c'est redescendu jusqu'à moi, puis on m'a dit bon ben il y a un dessinateur qui cherche quelqu'un pour faire des décors, mais je sais plus comment il s'appelle, donc moi je me dis bon, quelqu'un qui cherche pour faire des décors, il fait quoi comme dessin? Moi je ne sais plus trop, il fait des bandes dessinées avec des filles avec gros seins, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quelqu'un qui devrait être capable de tracer une perspective et qui fait des trucs un peu heureux. Non pas du tout, il faisait Sexy Gun à l'époque et ça n'a rien à voir avec pas. Mais quand Tony m'a donné l'adresse de Mathieu, il finit plus du nom, puis je vois, mais c'est Mathieu Rennes. Ah oui, je le connais, ah oui, je le connais, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais d'un seul coup, en fait, j'ai failli passer à côté du truc. Et par une différente coïncidence, j'ai pu lui envoyer le soir même un travail, j'ai fait des essais directement, et en fait, je ne me doutais pas de l'importance du projet à ce moment-là. Je savais juste que c'était un projet secret, assez important, mais c'est seulement quand on a accepté mon travail qu'on va dire bon alors c'est chez Dupuis, c'est mon petit album, c'est avec René Alpierre, je connaissais bien évidemment, j'avais lu pas mal d'albums. Et donc je suis arrivé comme ça un peu par hasard, mais en même temps, parce que le projet précédent, j'avais poussé mon dessin vers quelque chose de plus réaliste. Et donc au niveau du décor, c'était ce que je cherchais faire peur de bien sûr. Quelque chose que les dessins des personnages soient. Pas forcément ultra réaliste, mais plutôt expressif, mais par contre que le décor reste totalement le plus réaliste possible. On va nous donner comme référence à la base des livres comme Akira ou des livres comme le Rapport en France. Bon, évidemment, je suis loin d'être comparable à ces références, mais c'était pour moi de. Et ensuite, simplement, on s'est rendu compte au bout d'un mois qu'on n'avait pas. On n'arriverait jamais à faire les 6 albums en un temps assez court. Surtout que c'était censé être de la science-fiction à court terme, c'est-à-dire qu'on était censé imaginer un truc qui se passait dans 5-10 ans et on disait si on fait les albums au moment où ils vont sortir, ce sera de la science-fiction. Donc on a rapidement pris la décision de trouver d'autres dessinateurs pour les
écrire. Pour moi, cette histoire, on va dire qu'elle commence il y a environ 8 ans. Il y a 8 ans, M. Denis Lapierre et M. Pierre-Paul Renders, ils ont travaillé sur un scénario et ils cherchaient un dessinateur. Et voilà, il y a Denis Lapierre qui m'a contacté à l'époque et m'a proposé de travailler avec eux. Et moi, j'ai dit Denis Lapierre quand même, mais j'ai dit non, je ne peux pas. J'ai d'autres choses à faire, je suis désolé, je ne peux pas travailler avec vous. Et donc, 5 ans après, j'ai reçu un mail de l'éditeur, lui qui dit, voilà, on a une série avec Denis Lapierre, est-ce que tu voudrais travailler avec nous? Je lui dis, bah, non, je ne veux pas. J'ai dit deux fois non à Denis Lapierre quand même, c'est pas tous les dessinateurs qui veulent ça. Et en fait, l'éditeur qui a essayé de me convaincre, et puis j'ai découvert que dans la série il y avait Mathieu Rennes que je connaissais déjà, on s'était croisé aux éditions Paquet il y a 10-12 ans. Et j'ai dit voilà, pourquoi pas, je fais le test, et sinon quoi, si ça marche pas, ça marche pas. Tout du coup, moi je voyais ça, ça m'intéressait pas comme auteur, comme dessinateur BD de travailler dans une série avec d'autres dessinateurs, c'est-à-dire on a une tendance à penser à lui comme des artistes, des auteurs, tout ça. Et bah justement là-dedans, j'ai appris à avaler mon ego, mon propre ego, pas mon alter ego, mon ego. Et je suis arrivé, bah, l'univers il était déjà installé, il était mis en place, il y avait des personnages qui étaient déjà créés, bah, la narration, la tendance, on va dire, la composition des pages, la narration, tout ça était déjà créé. Donc je suis arrivé et j'ai essayé de trouver un peu ma place à fur et à mesure. C'est-à-dire au début, j'ai essayé de rattraper le dessin de Mathieu, d'être un peu, de faire de sous-Mathieu, de sous-René. Et puis finalement j'ai appris que... qu'il y avait un truc qui s'installait, c'était, il y avait un style qui était le style alter ego pour moi. Plutôt la deuxième saison, ça va sentir un peu plus que la première, surtout dans mon travail. Mais il y a une cohérence au niveau du style, de la relation du personnage avec les décors et dans la narration elle-même. Je pense aussi que mon dessin il n'est pas loin de celui de Mathieu en termes, on va dire, général. On est dans un dessin semi-réaliste, un peu à la limite de la caricature, mais voilà, finalement, je pense que c'est ça justement, il y a le style de dessin et des narrations à l'inter ego qui marche bien, et c'est ça voilà, qui fait marcher.
On a beaucoup de gratitude pour Ricard qui, à l'époque où on est allé vers lui, avait déjà quand même pas mal de BD à son actif. C'était pas un auteur débutant et il a accepté de rentrer effectivement. C'était pas évident de se dire tiens, il y a une Bible, il y a des personnages. Au départ, on a décidé que pour les 6 premiers albums, ce serait Mathieu qui ferait le storyboard de tous pour qu'il y ait, pour justement on arrive à avoir un seul interlocuteur et que le style narratif de la série soit le même dans les albums, quels que soient les dessinateurs. Et ça s'est effectivement créé tellement bien que pour la deuxième saison, on a dit il n'y a plus de raison de faire ça. Ricard et Mathieu sont complètement sur la même longueur d'onde et la manière dont ils découpent les scénarios qu'on leur envoie, c'est celle qu'on a mis en place pour Alter Ego, qui a un découpage très fluide. On est très sensible, Denis Lapierre est très sensible à la fluidité du découpage. Souvent en bande dessinée, on va vous parler de la qualité du dessin ou de la qualité du scénario, mais la vérité c'est qu'une belle bande dessinée, c'est pas tellement le dessin et c'est pas tellement le scénario, c'est surtout la manière dont elle est racontée dans le découpage, entre les cases et tout. Évidemment, un beau dessin, ça aide. Et évidemment, une belle histoire, c'est super important. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais ce qui fait vraiment qu'une bande dessinée, on rentre dedans, on reste un peu sur le bord, c'est la manière dont le découpage est fait, la fluidité. Et Denis Lapierre a beaucoup, beaucoup observé et analysé ceux des grands de la bande dessinée, des Hergé, des Peyo, des gens comme ça qui ont vraiment créé et que certains dessinateurs et certains scénaristes ont un peu tendance à oublier et on multiplie parfois les effets graphiques, on met des contre-champs, des contre-plongées, des plans superbes au niveau graphique, mais quand vous lisez la BD, vous avez un peu de mal en fait parce que vous n'arrivez pas toujours à vous retrouver dans la page, vous n'avez pas dans quel ordre il faut lire les cases ou les bulles, et pour moi c'est des défauts qui font que on se coupe d'une partie du public. Et c'est dommage. Nous, on voulait quelque chose de grand public tout en tirant la qualité vers le haut. Et donc, on a élaboré cette charte de narration qui maintenant, voilà, elle tourne un peu toute seule. Et c'est vrai qu'on n'a plus grand-chose à faire comme remarque sur les storyboards qui nous arrivent aussi bien de Mathieu que de Ricard.
Non, je suis toujours dans mon envie de tout savoir. Alors là, j'ai envie qu'on mette les mains dans le cambouis et que vous nous expliquiez complètement comment ça marche. On a un scénar, on a Mathieu qui disait le storyboard, et après qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui récupères les planches?
Alors voilà, en fait, grâce aux emails, on n'avait pas besoin de travailler dans le même atelier. Et donc ce qui se passait, c'est que c'était un échange continuel entre Mathieu et moi, et c'est toujours le cas d'ailleurs, parce qu'on continue le sur la série. En fait, Mathieu, donc, d'abord, il refait le scénario, il discute du storyboard avec Denis Lapierre. Denis Lapierre lui demande de refaire 5 fois la même page, donc il est très calme, mais c'est quand même. Et ça, c'est le tout début. Et ensuite, il m'envoie le storyboard avec les cases vides. Donc il trace le coffrier vide, qui me sert de référence. Là-dessus, je
j'utilise le storyboard pour placer un premier crayonné des décors. Donc pour ça, je prends un maximum de documentation. Donc c'est un dessin réaliste, c'est important. D'autant plus que dans la série, ça se passe dans je ne sais plus combien de dizaines d'endroits dans le monde. C'est vraiment partout, sur tous les continents, à part l'Antarctique. Et donc pour ça, à chaque fois, je fais un crayonné qui permet à Mathieu de placer ses personnages. J'envoie ça à Mathieu. Mathieu place ses personnages, il les entre, et il m'envoie un fichier avec uniquement les personnages. Donc c'est un fichier assez particulier parce qu'on voit des petits bonhommes dans du blanc, comme dans Matrix, quand ils sont juste dans du blanc, c'est exactement ça. Là-dessus, moi je superpose les personnages et mon crayonné et je peux entrer mon décor. J'entre mon décor, j'envoie à Mathieu uniquement le décor, donc cette fois il y a des fantômes dans mon décor, il y a des voitures qui sont destructibles et ce genre de choses. Et là, Mathieu superpose les deux, ajoute le texte, et la planche entrée est finie. Cette fois, elle est envoyée à la couleur, c'est les deux qui font les couleurs.
C'est-à-dire, la page, elle n'existe pas.
Ouais, ouais.
La page, il y a d'un côté, chez lui, il y a les décors avec les cases et les tout blanc. Et chez Mathieu, il y a le personnage. Et en fait, là, on se trouve, curieusement, qu'il y a pas mal de dessinateurs, ces moments qui se mettent à travailler directement au numérique. Et ça se trouve que Benjamin, Mathieu, Emile Zula et la personne et moi-même, on travaille tous directement au numérique, au moins pour cette série. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas d'original. Ça n'existe pas, donc
c'est une perte de revenus. Oui et non, dans le sens où mes originaux et ceux de Mathieu sont difficiles à vendre parce que d'un côté pas le décor et de l'autre côté
voilà, c'est un peu. Donc c'est une perte de revenus.
Oui, mais je parlais par rapport au passage numérique parce qu'effectivement, à partir des deux tiers du septième tome, moi je suis passé au dessin. Donc avant je faisais tout sur papier, je scannais, je composais à l'ordinateur. Maintenant, je dessine sur tablette numérique et Ricard est passé aussi à la tablette numérique. Mathieu commence à y venir.
Et
ce qui nous permet, ça c'est un autre sujet, mais ça nous permet, techniquement parlant, d'ouvrir un panel de possibilités énormes par rapport à la réalisation de l'album. Mais donc, quand vous lirez le tome 7, je défie quiconque de me dire à quel moment je passe au numérique, parce que j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus cohérent possible. Que le numérique soit là pour servir mon travail et pas pour faire un effet graphique, pas pour faire
une question de type qui dessine pas du tout. Est-ce que c'est pas frustrant de dessiner que des décors et pas de perso, et vice versa, est-ce que c'est pas frustrant de dessiner que des persos et pas de... Est-ce que parfois, tu disais tout à l'heure, je dessine une voiture et je mets pas le conducteur dedans, est-ce que ça te titille pas d'aller... Allez,
je pense qu'au début, j'avais cette frustration parce que j'avais envie de dessiner des personnages, j'avais envie aussi simplement de faire mes preuves en tant que dessinateur de personnages, parce que donc, c'était mon premier projet édité, c'était un gros projet, j'étais bien content, mais il y avait un côté, oui, mais j'aimerais bien faire des personnages. Mais en fait, j'ai vraiment trouvé mon plaisir dans cette série à... je fais mes personnages. Mes personnages sont les décors, sont les voitures, les pièces. Je compose à chaque fois tout un univers autour des personnages. C'est un univers que le lecteur n'est pas censé voir, mais qui est censé percevoir, sentir. C'est-à-dire que je ne meublerai pas du tout de la même manière une maison qui appartient à une personne de telle personnalité, pour à chaque fois créer une ambiance, créer quelque chose qui quand on regarde autour, il y a une certaine histoire, on se dit, tiens, cette personne, elle est plus bordée que celle-là, tiens, cette personne. Apporter quelque chose que quand on est dessinateur classique, c'est-à-dire quand on fait tout, on n'a pas le temps de faire. Ici, j'ai essayé de me dire, j'ai le temps, on me propose de travailler uniquement sur les décors, on travaille uniquement sur les personnages, on va chacun pousser la chose jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est délaissé par rapport, il n'y a pas les personnages qui sont délaissés par rapport aux décors. Et donc, ça m'a tellement plu, finalement, ensuite, on m'a proposé de travailler maintenant sur la série Michel Vaillant, sur la reprise de la série Michel Vaillant. Et là, je m'éclate vraiment dans un petit bout. Pour moi, vraiment, les voitures, tout ce qui est technique, je trouve vraiment mon plaisir à faire ça. Même si à côté, j'ai d'autres projets où je ferai les personnages, mais c'est pas le même travail.
Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, moi, évidemment, comme dessinateur, j'adore dessiner tout. Et je pense aussi que le décor, c'est un personnage. Finalement, ça raconte pas mal de choses. Je disais, les collègues, ici à côté. je suis Luciano. Au début, peut-être à la première saison, oui, ça me manquait. Surtout parce que je n'avais pas bossé dans les créations des personnages. Je ne travaillais pas dans la narration. Oui, il y avait une sorte de décalage. Il y avait la trois parties de boulot que je suis censé faire. Je ne la faisais pas. Mais on est arrivé à la deuxième saison. Je ne fais pas les décors, mais même je m'installe. Fait des choix, j'ai dit qu'est-ce qu'on m'a raconté sur les décors. J'ai fait, même si je ne vais pas faire le dessin définitif des décors, j'ai fait une démarche pour trouver la documentation et tout ça. Donc voilà, ça permet de trouver le bonheur. Mais comme j'ai fait d'autres séries à côté, ça permet de travailler tout. Ouais.
Je crois qu'il faut pointer quelque chose aussi particulièrement sur cette série, c'est parce que j'en ai parlé à des auteurs qui faisaient. Vous avez des collaborations avec plusieurs auteurs sur un seul album. C'est qu'ici, semble-t-il, on s'est trouvé. On s'est vraiment trouvé dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, on a mis notre ego de côté, et qui fait qu'on a tous travaillé avec un seul objectif, c'était de faire des bons albums, de faire qu'on ne voit pas forcément qui a fait quoi, mais que le lecteur ait envie de se plonger dedans, comme ça. Mais sans volonté d'auteur derrière de dire tiens, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Et maintenant, si je continue à travailler sur cette série, c'est parce que je suis content de travailler avec le dessinateur de personnages, je suis content de travailler avec les scénaristes, parce que sinon, faire des décors, ça peut être rapidement très chiant, effectivement, si c'est un scénario pas forcément intéressant. J'ai eu une autre expérience, dont évidemment je ne citerai pas le nom, mais où là, le dessinateur de personnages et moi, on ne s'entendait pas du tout de la même manière. J'avais une vision différente de son travail, lui avait une vision assez passéiste, il scannait pas ses planches, tout ça. Et là, c'était un cauchemar, c'était vraiment un cauchemar. Donc ça dépend vraiment des personnes avec qui on travaille.
Je pense aussi, il y a le côté au moins, parce qu'on doit travailler ensemble, même si chacun travaille dans son coin de l'Europe. On partage pas mal de choses, des mails, c'est-à-dire il y a du matériel à discuter. Il y a Denis Lapierre surtout qui une fois ou deux fois par mois, il nous appelle par Skype, voilà, mais parfois juste pour discuter, donc c'est-à-dire. On apprécie ça, on est des gens, on partage, parfois les scénaristes, c'est pas tout à fait habituel, les scénaristes qui disent non, mais vas-y, propose des choses, il faut faire, si tu trouves des incohérences, si tu trouves des choses qui peut-être vont mieux, si tu trouves. Évidemment, ça donne du plaisir de travailler, donc on continue.
Oui, pour moi, le fait de travailler avec un studio comme ça, plusieurs personnes, c'était, je retrouve quelque chose du cinéma où on a toujours une énorme équipe autour de soi et on crée en commun. Moi, c'est quelque chose que je trouve très dynamisant. Et c'est vrai qu'on sait que l'image qu'on peut avoir dans la BD des studios comme ça, c'est souvent quelque chose d'un peu froid où on se dit les gens sont payés à la pige comme ça et ils ne font pas les choses avec une âme. Ici, c'est vrai que la manière dont le studio s'est trouvé, c'est une sorte de petit miracle malgré tout au niveau du plaisir qu'on a à être ensemble. On a vraiment l'impression d'être une équipe derrière le projet, c'est vrai, tous derrière. Personne ne prend le leadership absolu et fait des crises d'ego sur les choses. Mais on a vraiment un plaisir à se retrouver ensemble. On est content quand un festival nous invite, parce qu'on ne se voit pas souvent, mais on disait encore on aimerait bien se faire un week-end payé par notre éditeur, mais notre éditeur n'est pas là, ça sert à rien que je le dise, mais bon. Bien, peut-être que justement je peux le dire, mais pour juste se retrouver ensemble et redynamiser nos relations, etc. C'est pas qu'elles en aient besoin, mais que c'est vraiment un plaisir pour nous et que c'est pas un projet. Souvent, on voit les projets conceptuels comme des créations d'éditeurs avec des commandes qu'on passe à des scénaristes et des auteurs qu'on va chercher comme ça. Dans notre cas, c'est vraiment né de notre envie d'auteur, de scénariste et aussi de nos connexions personnelles. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Mais la manière dont les personnes ont été trouvées, Ricard, c'est vrai que finalement, s'il a dit oui, c'était aussi parce qu'il y avait Mathieu qui connaissait, parce qu'il disait c'était Denis. Mais c'est pas pour le fric du fric qu'il l'a fait. On a cette chance-là et c'est un vrai plaisir qu'on a de travailler en équipe. Et ça a quelque chose à voir avec la thématique aussi des connexions qu'il y a entre les gens. Il y a une espèce d'écho à la thématique de la série dans la manière même dont notre équipe fonctionne.
En tout cas, on sent bien, il y a une vraie alchimie, on s'est créé. Je ne savais pas avant de vous rencontrer, mais j'ai lu des albums et la qualité est là, donc voilà, ça confirme en fait ce qu'on peut voir à travers les
films. Merci.
Et alors une saison 2, c'était prévu à la base ça ou c'est...
Oui, en fait, là on vient d'annoncer qu'il y avait une saison 2, etc. Et il y a des lecteurs qui disent « Ah oh, ouais, mais pourquoi est-ce que vous ne tirez pas sur la ficelle et tout ?» L'idée, c'est que, effectivement, dès le début, quand l'idée est née, moi, je l'ai présenté à Denis, j'ai dit après, pour la saison 2, il y aura ceci, pour la saison 3, il y aura des possibilités pour faire ça. Je voyais déjà des perspectives sans tirer sur la ficelle. Au contraire, pour moi, a priori, la première saison, elle était amusante à faire comme ça, comme plus narrative, mais c'était une espèce d'amuse-gueule presque, pas d'amuse-gueule, mais de mise en bouche où on plante un concept, pas tellement le concept de la lecture multiple comme ça, mais le concept qui est au cœur de l'histoire. Ce regard sur l'humanité qui change complètement parce qu'il y a une découverte incroyable qui est faite. Et quand on crée cet univers-là, après, ça génère plein de situations super intéressantes qui peuvent créer des péripéties d'action, de tension, de complot, etc. Mais aussi dans le relationnel entre les gens et nous parler de la manière dont on doit prendre des décisions dans la vie, de parfois la complexité qu'on a face aux enjeux éthiques, face à des choix de société, et tout ça qui soit à l'arrière-plan d'un vrai thriller, et d'avoir comme ça une manière de tirer vers le haut une histoire grand public, mais avec toutes sortes de thématiques derrière qui m'intéressent vraiment en tant qu'auteur.
On va peut-être...
Il y a des questions ?
Ouais, des questions.
Super. Aussi,
les gens ont lu Alter Ego et ont vu des erreurs, ce serait bien de le dire tout de suite.
Il y a une erreur aussi. Bonjour. Je voulais savoir si pour la saison 2 vous ferez la même chose, 6 albums comme ça.
Alors ça ne sera pas 6 albums, mais on garde le concept d'avoir un puzzle narratif au début, mais il sera sur 3 albums, plus un quatrième qui conclut la chose. Comme ici, on avait 6 albums plus un 7e où on récupère toutes les lignes narratives. Dans la deuxième saison, ce sera 3 albums et un 4e. On ne tient pas au concept plus que ça, mais on l'adapte en fonction de ce qu'on a à raconter, quoi. On a d'abord décidé de ce qu'on avait à raconter. D'ailleurs, c'était ce qui a présidé à la première fois aussi. La première fois, quand on a commencé à imaginer, au début, on avait 5 personnages. Et puis, plus on écrivait l'histoire, plus on s'est dit, mais il y a un personnage en plus qui est nécessaire et il faut créer une 6e histoire. Et donc, je parle des tout premiers temps, mais donc à un moment, ça s'est imposé qu'il fallait 6 personnages. C'est pas une commande de l'éditeur, c'est pas... Voilà, c'était 6 parce que c'était 6 qui était nécessaire à l'histoire. Pour la deuxième histoire, on a l'impression que, avec ce qu'on a écrit, avec 3 personnages, on fait le tour de la problématique qu'on a envie de mettre en place dans la deuxième saison. Et voilà, et si on a la chance de faire une 3e saison, je ne peux pas encore vous dire si ce sera avec 2 albums, un album unique, ou bien 5 albums et un 6e. On verra bien, je sais de quoi j'ai envie de parler, mais j'ai pas encore déterminé toutes les implications possibles et le genre de puzzle qu'on pourra faire. C'est vrai que la saison connaît son succès maintenant, elle attire l'attention à cause du concept, mais j'insiste toujours pour dire que le concept est venu après l'histoire. Contrairement à trop d'histoires en BD où on a d'abord imaginé le concept et où on essaye de faire entrer une histoire dans le concept. Quoi. Et ça, je pense que c'est...
Je pense qu'il y a quelque chose de positif, c'est que c'est donc plaisir à continuer. C'est-à-dire, il n'y a pas de question de... C'est pas un gros succès, donc, c'est-à-dire on n'est pas obligé par le succès. Et puis, on a une liberté de création, on va dire, des scénarios, des constructions d'histoire. Et puis qu'on ne profite pas même le petit succès que ça supposait ça. Donc, c'est-à-dire les personnages qu'on récupère, presque même pas les personnages principaux, mais ils sont parfois des secondaires à la saison 2. Donc je ne peux pas trop raconter parce que... voilà, c'est on se donne plaisir à parfois les scénaristes qui proposent des choses. Là, et si un jour on faisait ça, on dit ah oui, oui, bah, pour l'instant que peu qu'on nous laisse, oui, ça, c'est amusant.
Voilà, la saison 2 et la saison 1 sont assez... la saison 2 n'est pas la suite... Enfin, la saison 1 ne se finit pas
à la saison 2.
C'est vraiment il y a une fin à la saison 1, c'est une autre histoire à la saison 2, et on retrouve quelques personnages, mais c'est une autre histoire. Donc c'est pas comme si on se disait, tiens, en fait, ah ben non, en fait, il était pas mort, en fait, on va le sortir, et puis, non, non, c'est pas du rafistolage, c'est une autre histoire, c'est quelque chose. Et surtout, il y a un mot que j'aime beaucoup utiliser. En fait, dans la saison 1, on a installé Pierre-Paul et Denis ont installé un changement dans la manière de percevoir les relations entre les hommes sur toute la Terre. Donc, et on change de paradigme. C'est un truc que j'appelle en philo, j'aime beaucoup ce truc. On change de paradigme. Donc à partir de la saison 2, on arrive à un moment où chacun d'entre nous, dans cette pièce et même autour des membres, d'un seul coup, on ne peut plus penser comme avant notre identité. Et de là, ben, c'est normal, on n'a qu'une envie, c'est de raconter ça. Et on peut se projeter, là, dans la saison 2, on se projette quelques années plus tard, mais on peut se projeter encore plus tard, on peut imaginer plein de choses derrière ça. Donc vraiment, après, c'est... je pense que c'est plutôt l'éditeur qui nous dira non, on va arrêter là maintenant.
Ou les lecteurs qui en auront marre, hein, ouais. Parce que c'est quand même les lecteurs qui décident. Donc on verra bien, mais nous, tant qu'on aura des choses à raconter, on va essayer de continuer. Moi, au départ, ce qui a fait naître cette idée-là, c'était une réflexion sur deux tendances de notre monde qui sont d'un côté la mondialisation et le fait qu'on est interconnecté de plus en plus et qu'on est, voilà, quand une crise arrive dans un pays, elle touche un autre et je sais plus, on entendait qu'il y avait, qu'on aurait des problèmes de couche-culotte parce qu'une usine au Japon ou en Chine avait brûlé, donc on allait peut-être avoir une pénurie. On est vraiment complètement interconnecté aussi avec... le temps réel des communications, etc. Et en même temps, l'esprit général du temps pousse vraiment énormément à l'individualisme et à dire le bonheur c'est moi tout seul et je le ferai moi tout seul dans mon petit trou. Et cette espèce de contradiction m'a emmené à l'idée qu'est-ce qui se passait si en fait tout d'un coup on était obligé, même par égoïsme, d'être altruiste en fait, de s'occuper d'autres personnes qui ne sont rien pour nous parce que sinon c'est notre propre vie qui est en danger. Et donc, à partir de là, j'ai imaginé la découverte qui est au centre du truc. Et elle m'intéresse énormément parce qu'elle remet en cause plein de choses dans les certitudes qu'on a au niveau de ce que c'est la liberté individuelle, la démocratie, les enjeux éthiques. Tout est remis en question par cette chose. Et en même temps, j'en fais pas des BD à thèse. C'est en arrière-plan, c'est chaque lecteur est invité à se poser la question de dire mais putain, j'aurais fait quoi moi à la place de tel ou tel personnage. Et on s'amuse effectivement avec cette narration à entrée multiple, on crée bon, en fait le slogan qu'on avait c'était qu'il y a une histoire, 6 albums et 720 manières de se la raconter. Parce qu'effectivement, c'est factoriel 6, donc c'est 2 x 3 x 4 x 5 x 6 manières que vous pouvez rentrer dans cette histoire. Et chacune des manières va vous faire ressentir l'histoire d'une manière un peu différente. Parce que selon l'album avec lequel vous commencez, vous allez avoir de ce personnage une vue positive et vous rendre compte qu'il a des côtés noirs, ou bien l'inverse. Vous allez savoir qu'il va mourir très vite et donc dans les autres albums, vous allez vous dire putain et dire qu'il va mourir. Ou bien vous ne savez pas... Vous savez pas qui meurt, et alors vous êtes là à vous dire ah, putain, est-ce qu'il va s'en sortir. C'est chaque fois, là, on s'amuse vraiment énormément avec ça, et on crée. Voilà, on a envie de garder cet aspect-là pour la seconde saison, mais il ne fonctionnera pas de la même manière non plus. Ça sera une autre. Vraiment une autre saveur qui sera donnée au plus le narratif pour la deuxième saison.
Je pense qu'il y a aussi un côté que d'avance, c'est l'aventure. C'est-à-dire on essaie de donner un produit au lecteur où il puisse bien s'amuser. C'est-à-dire, oui, il y a des réflexions derrière qui sont super intéressantes. C'est-à-dire, on se pose des questions, et ces questions nous amènent à la deuxième saison, on se met à d'autres questions. Mais finalement, c'est la BD, c'est l'aventure surtout. Donc moi, je trouve que voilà, c'est ce que vous mettez devant, c'est ça.
Ah oui, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de grand public qui se lit en plus vraiment tous les publics, même des gens qui n'ont pas beaucoup l'habitude de lire des bandes dessinées, ils rentrent dans cette BD là sans problème. Et le côté lecture multiple au contraire les amuse plutôt qu'autre chose. Donc on n'a vraiment pas envie de faire une BD prise de tête, mais avec des questions à l'arrière-plan qui vont avoir des résonances dans les saisons suivantes. Encore une petite question dans l'assemblée. Alors, posez votre question.
Ce sera propre personnage nouveau ou on retrouvera les anciens Camille
Il y aura trois nouveaux personnages qui seront les héros de chacun des albums qui vont s'interpénétrer, s'intercroiser comme dans la première saison. Mais on va effectivement retrouver en arrière-plan dans des rôles plus ou moins secondaires les héros de la première saison, enfin en tout cas beaucoup des personnages de la première saison parce qu'ils vont rester importants dans cette histoire-là. On va connaître donc leur futur, ceux qui ne sont pas encore morts, on pourra les retrouver. C'est évidemment le plaisir aussi parce que s'il n'y a aucune continuité, il n'y a pas non plus de raison. Alors on pourrait écrire une toute autre histoire dans un tout autre univers. Donc, l'idée c'est quand même de profiter du background qu'on a déjà créé avec non seulement le concept de l'histoire mais aussi les personnages.
Dernière question, peut-être. Ou pas, si vous voulez pas. Oui.
Alors, c'était pas vraiment une question, c'était juste pour vous dire que moi, quand j'ai découvert la BD, j'étais un peu sceptique par rapport au concept et à l'histoire. Donc, avec un ami libraire, on s'est partagé les albums, c'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas les lire dans le même sens. Et c'est bon de dire que ça marchait bien et qu'on avait été conquis. Donc félicitations pour votre travail.
Merci beaucoup. Merci, ça nous fait plaisir. Mais c'est vrai que les gens pensent que c'est pas vrai. Et la plupart des gens disent, moi j'ai lu dans le bon ordre, mais je suis sûr qu'un autre ordre. Et ils disent toujours, j'aurais pas voulu commencer par celui par lequel j'ai fini. Mais en fait, vraiment, ce qu'on entend d'une manière pratiquement unanime, c'est que non seulement on ne sait pas par lequel commencer, par lequel finir, mais qu'en plus. Les gens ont du mal à dire quel est leur préféré. Et quand il y en a un qui a un peu moins aimé, c'est souvent le préféré de quelqu'un d'autre. Donc on est content de cette uniformité de qualité. Voilà, et on espère que le bon démarrage qui est là va continuer. Je ne sais pas parmi vous combien connaissaient la série et combien sont en train de la découvrir. Mais vous voulez lever la main, ceux qui connaissaient la série ?
Comme ça.
Ah, c'est bien, il n'y en a pas trop, donc tous les autres, vous allez où? Voilà, merci beaucoup.
Vous avez pointé deux choses qui sont très importantes, c'est qu'effectivement, les libraires ont fait un gros travail là-dessus. Les libraires ont vraiment... ils ont été les premiers lecteurs de la série et nous ont vraiment aidés parce qu'ils ont découvert qu'est-ce qu'était vraiment le principe qui parfois n'était pas forcément facile à expliquer. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a la société.
Oui, c'est vrai. Parce que il y a malgré tout, à cause du fait que beaucoup de séries concept n'étaient pas tout à fait à la hauteur de leurs ambitions, elles ont un peu dégoûté les lecteurs et les libraires aussi. Elles ont été un peu prises pour des pièges à lecteurs en disant « Ouais, mais on les oblige à acheter 6 albums d'un coup et tout ». Et on a eu tout un a priori qu'on est en train, petit à petit, de faire tomber. Voilà,
ouais, des gens... Qui se remettent devant notre gueule avec la saison 2, par contre.
Avec la saison 2, ça ressurgit. C'est déjà sorti avec le tome 7 où des gens disaient « Mais les 6 premiers se suffisent à eux-mêmes, il n'y avait pas besoin du 7e ». Puis quand le 7e est sorti, on dit « Ah oui, quand même, le 7e, ça met une vraie conclusion et tout. On sent bien qu'elle était prévue et que c'est pas du bois de rallonge ». Ben voilà, la saison 2, on essaiera que ça soit aussi comme ça. Maintenant, vous aurez le droit de l'aimer ou pas, évidemment.
Je crois qu'un lecteur satisfait, c'est la super conclusion.
Ah ouais. Voilà. Oui, c'est ça.
Merci,
c'est ça.
Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci.
Oui, je donne pas beaucoup de travail.
T'es reposant quand même.
Ouais, oui, en fin de journée, c'est bien d'avoir quelque chose.
Et la saison 2,
Dans un an. Dans un an, elle va commencer à sortir.